Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux questions énergétiques, la structuration des secteurs pétroliers et gaziers mondiaux, les évolutions possibles en matière de géopolitique des pays producteurs et des pays consommateurs, la concurrence à laquelle se livrent les compagnies occidentales et celles des pays émergents ou émergés, Chine, Russie, Arabie Saoudite, Brésil, Iran, et cette question qui dirige la scène énergétique mondiale ou encore comment comprendre la stratégie de sacrifice des prix de ces dernières années. Enfin, l'OPEP peut-elle survivre dans un monde d'abondance pétrolière? Pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue internationale Les Stratégiques, dont le dernier numéro a pour titre Énergie, transition et recomposition, nos invités, Claude Fischer, directrice d'ASCPE, les entretiens européens et eurafricains, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel H., économiste à l'IFP Énergie Nouvelle, professeur et directeur de recherche à l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Et Luca Baccarini, Carini, chercheur associé à l'IRIS, bonjour.
Bonjour Marie-France.
La situation économique actuelle dans laquelle les entreprises occidentales souffrent toujours des effets de la crise des cours du pétrole et pâtissent d'une demande domestique atone voit les pétroliers issus des pays émergents prendre de plus en plus de place. Les pétroliers chinois en particulier se classent en termes de bénéfices nets devant les supermajors que sont Shell, ExxonMobil, pour n'en citer que quelques-unes. Les compagnies pétrolières nationales des pays émergents se développe sur toute la planète. Qui dirige aujourd'hui la scène énergétique mondiale? Emmanuel H.
C'est une question qui est très pertinente parce que quand on parle de scène énergétique mondiale, il faut voir un tout petit peu l'ensemble des transitions en fait qui ont été réalisées en fait durant la dernière décennie. Hein, on a une transition effectivement des acteurs, hein, comme vous le dites, hein, les compagnies internationales, ce qu'on appelle les IOC pour International Oil Company, sont concurrencées en fait de plus en plus par les compagnies nationales, les NOC des pays émergents. Juste un petit rappel, hein, à l'heure actuelle, les compagnies internationales, ce qu'on appelle les super majors, c'est uniquement 14% de la production mondiale et c'est 9% des réserves pour le pétrole. Hein, si on regarde pour le gaz, on est autour de 10% de la production et 17% des réserves.
Les majors qui ont dominé le monde à une certaine époque,
tout à fait,
voient aujourd'hui leur influence considérablement réduite, Emmanuel H.
Tout à fait, en fait, ce qu'on a appelé les sept sœurs, les Seven Sisters des années 40, enfin 30, 40, et qui ont dominé la scène pétrolière, ont été concurrencées, j'allais dire, depuis les années 60 déjà par la création de l'OPEP, par les mouvements de nationalisation, mais également à l'heure actuelle, en fait, par les émergents. Alors, on parle beaucoup des compagnies chinoises, mais il y a aussi les compagnies indiennes, la compagnie brésilienne, et on a véritablement de nouvelles sept sœurs qui apparaissent sur le marché. Et une nouvelle sœur, enfin une nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais Saudi Aramco, notamment les compagnies nationales de l'OPEP, sont de véritables super majors au sens géopolitique et de la domination en fait de la scène pétrolière internationale.
L'Inde que j'ai oublié de mentionner effectivement dans les pays que j'évoquais précédemment. Alors finalement, comment se structurent les secteurs pétroliers gaziers mondiaux dans cette dualité, voire dichotomie, en tout cas concurrence? Quelles conséquences, Claude Fischer?
Déjà, moi, je voudrais dire un tout petit mot sur justement l'émergence de ces pays-là sur le marché mondial. Je pense que c'est une bonne nouvelle, en fait. Hein. D'abord, c'est l'arrivée de milliards de populations dans le développement. Et donc, ça, on peut que s'en réjouir. On s'est tous battus à l'époque, je me rappelle, pour le développement des pays sous-développés. On disait ça comme ça. Aujourd'hui, ils sont développés. Et je pense que ça nous oblige, en tout cas en Europe, à repenser nos politiques énergétiques et à mutualiser peut-être les coûts et de voir comment les grandes entreprises vont pouvoir nouer des alliances ou des partenariats, y compris d'ailleurs peut-être avec ces compagnies-là, en Chine ou en Inde ou ailleurs, pour pouvoir satisfaire les besoins qui, effectivement, dans le gaz et dans le pétrole, on y reviendra très certainement, sont plutôt à la hausse, contrairement à toutes les volontés politiques de baisser notre dépendance, notre consommation, etc., vu effectivement non seulement l'émergence de ces pays en question, mais aussi de la demande des pays développés, et notamment en Europe, d'autant plus si on va vers une baisse du charbon ou vers un rééquilibre des sources dans le mix énergétique.
Luca Baccarini.
J'attirerai l'attention notamment, pas simplement donc sur la relation avec les grands pays producteurs traditionnels et les grandes compagnies internationales, mais aussi sur la dynamique qui s'est installée ces dernières années du côté des États-Unis, qui ont été clairement le game changer, le facteur d'évolution le plus important sous le marché ces dernières années. Et ceci à partir d'une révolution qui a été principalement technologique, donc la révolution exactement des hydrocarbures non conventionnels, donc ce qui est démarré d'abord sous le gaz avec donc le fameux shale gas, le gaz de schiste, mais qui après s'est traduit aussi par une augmentation très importante dès la production du pétrole avec donc le pétrole non conventionnel, le tight oil, tel qu'il est défini. Donc effectivement, si on regarde ces dernières décennies, notamment sous le pétrole, un facteur de dynamisme, de changement de paradigme s'est produit notamment grâce à ce phénomène qui est pour l'instant un phénomène, je dirais presque exclusivement nord-américain, donc des États-Unis et du Canada. On n'a pas encore assisté à un développement très important de ces hydrocarbures non conventionnels ailleurs dans le monde.
La fin des années 2000 qui a effectivement marqué la renaissance énergétique américaine. Je propose qu'on en parle un tout petit peu plus tard dans l'émission. Je reviens à ma question, Emmanuela, je me tourne vers vous. Eh bien, qui dirige la scène énergétique? Vous évoquiez la Chine dans le dossier de la revue internationale stratégique. Vous évoquez l'idée qu'elle est devenue la Chine un price maker, c'est-à-dire un faiseur de prix et un investisseur majeur sur les marchés pétroliers. C'est aujourd'hui la Chine qui est dominante?
La Chine, elle est dominante. Déjà, elle a porté, on va dire, la demande mondiale d'énergie et la demande mondiale de pétrole, en fait, dans les années 2000. Hein. C'est le premier consommateur d'énergie au monde. C'est le deuxième consommateur de pétrole et c'est le premier importateur mondial de pétrole, juste devant les États-Unis. Donc, effectivement, tout ce qui se passe en Chine d'un point de vue énergétique va avoir des répercussions au niveau international, que ça soit sur les prix ou sur les marchés. Elle est aussi, comment dire, très active. Vous l'avez dit, en fait, en termes d'investissement direct internationaux. La Chine depuis 2005, c'est environ 510 milliards d'investissements dans l'énergie. Le premier investissement, il date de 1992, hein, donc c'est très vieux, c'était au Canada, dans les huiles de schiste. Mais depuis 2005, enfin depuis le début des années 2000, et la politique qu'on appelle le Going Out Policy, c'est-à-dire lorsque le gouvernement chinois a incité les compagnies chinoises de toutes sortes, hein, à conquérir le monde, un accent a été porté en fait sur le secteur énergétique, tout simplement parce que la sécurité pétrolière, c'est, j'allais dire, un driver très important en fait de la politique étrangère chinoise. Et c'est pour ça que la Chine, elle a investi. Lorsque vous regardez une carte du monde à l'heure actuelle, la Chine a investi à peu près partout où il y a des matières premières et plus spécifiquement où il y a du pétrole, du gaz, du charbon.
Et on observe. Concrètement, ça nous situe où cela, Emmanuel H? C'est en Afrique essentiellement.
Ah, ça nous situe en Asie centrale, ça nous situe en Afrique, ça nous situe en Amérique latine. Et ce qui est très intéressant dans les investissements chinois, c'est que vous avez eu une stratégie qui a évolué au cours du temps, c'est-à-dire que on est passé au début des années 2000, avec un aspect purement, j'allais dire, je veux essayer de capter des ressources énergétiques pour pouvoir tout simplement répondre à la demande de mon secteur productif en Chine, c'est-à-dire un point de vue très quantitatif, à désormais, depuis quelques années, la Chine investit aussi aux États-Unis, au Canada et en Australie et même en Europe. C'est-à-dire que vous avez une diversification à la fois sectorielle et également géographique. Et la dernière tendance que l'on observe, c'est la Chine investit un peu moins dans les énergies carbonées à l'étranger, mais elle investit beaucoup plus dans les énergies renouvelables à l'étranger. C'est-à-dire que vous avez véritablement ce que fait la Chine à l'étranger en termes d'investissement, c'est ce que l'on observe dans la dynamique économique chinoise, c'est-à-dire un espèce de rééquilibrage vers les énergies renouvelables. Et donc, on a également en fait ce mouvement sur les investissements directs à l'étranger.
Claude Fischer. Oui, moi je voudrais dire que bon, la Chine, effectivement, se bat, investit massivement partout dans le monde, mais il y a quand même une bataille, si j'ose dire, énergétique aujourd'hui avec une Russie très offensive, hein, il ne faut pas oublier, dans la production de pétrole et de gaz, évidemment, et qui est en train de marquer son territoire, si j'ose dire, Moyen-Orient et Europe, aujourd'hui. Alors que l'Europe souhaitait moins dépendre de la Russie, alors qu'on est dans des interdépendances, on y reviendra très certainement, oui. Hein, et il faut les rendre constructives, qui plus est, la Russie exporte beaucoup plus de gaz. Elle a augmenté de 12,5% ses exportations de gaz l'année dernière, en 2016, en direction de l'Europe, en direction de la Turquie. Aujourd'hui, il y a des recompositions d'alliances dans la zone entre la Russie et la Turquie qui font que nous allons dépendre beaucoup plus aujourd'hui de la Russie si nous n'arrivons pas, bien sûr, à travailler avec eux de façon différente. Donc la Russie se bat. Elle exporte même aux États-Unis, il faut savoir, du gaz et du pétrole. Donc c'est pas gagné. gagner encore. Samuel Furfari nous dit que les États-Unis prennent une place très importante avec le gaz de schiste et qu'il y a une ouverture possible pour un autre type de gaz et de relations avec au niveau mondial. Je ne suis pas bien persuadée que c'est un avenir écrit d'avance. Et il faut compter sur les réactions de grandes puissances comme la Russie. J'ajouterais que dans la zone, l'Iran revient sur la scène internationale. Oui. C'est le deuxième producteur mondial de pétrole et de gaz. Et ils ont des ambitions. Les investissements que devra faire l'Iran pour pouvoir exporter son gaz sont massifs. Et je ne pense pas que les prix, qui ne sont pas cassés que par la Chine, mais par la Russie également, puisque, comme on le sait, ils sont au prix du marché spot aujourd'hui, puissent favoriser de tels investissements, ni en Iran, ni dans la Méditerranée d'ailleurs.
Emmanuel H.
Oui, si je pourrais reprendre sur la Chine, parce qu'effectivement, on parle de la Russie, on parle de l'Iran, mais à l'heure actuelle, la Chine, c'est le seul pays à avoir la puissance financière, j'allais dire, pour investir où elle veut dans le monde. Depuis les années 2000, on a observé un nombre très important de ce qu'on en appelle des barter deals. C'est-à-dire que la Chine, quand elle investit dans un pays étranger, elle propose une offre globale. C'est-à-dire qu'elle arrive avec des investissements dans l'énergie, mais elle arrive aussi avec des possibilités de crédit. Elle arrive avec des constructions d'infrastructures. Et cette approche complètement globale, c'est-à-dire qui englobe à la fois l'économique, l'énergétique et le politique, il sert les intérêts de la Chine et il sert également à étendre l'influence de la Chine dans le monde et à sécuriser ses approvisionnements énergétiques, quoi qu'on peut aussi relativiser cette question, parce que quand la Chine, elle investit à l'étranger, elle ne ramène qu'environ 50% de la production pétrolière produite à l'étranger. C'est-à-dire que l'investissement direct étranger, il sert à la fois à sécuriser des ressources, mais il sert également pour les compagnies chinoises à devenir de plus en plus internationales et de plus en plus à influencer les marchés.
Donc une vraie stratégie de la Chine avec la question énergétique finalement qui est un véritable vecteur de politique étrangère. Je pense que vous ne me contredirez pas, Luca Baccarini.
Certainement pas. Je rebondirai volontiers sur les commentaires qu'on a fait précédemment sur la Russie. Pour aller effectivement dans le même sens, dans le sens de dire que l'activisme et la crédibilité qui a gagné Poutine ces dernières années au Moyen-Orient, notamment aussi du fait d'un certain désengagement des Américains et d'une faiblesse structurelle de l'Europe, c'est une donnée géopolitique qui se retrouve aussi effectivement dans les opérations énergétiques. Et notamment, si on se remet dans le cadre du dernier accord de l'OPEP fin novembre, donc juste il y a 2 mois, accord auquel aujourd'hui le marché donne confiance, parce qu'effectivement, les prix du pétrole se sont stabilisés, disons, autour de 50-55 dollars par baril, mais cet accord se tient pas simplement sur une réduction affichée de production de la plupart des pays de l'OPEP, mais se tient aussi sous le fait qu'il y a un volet de réduction de la production de la part de pays non OPEP et notamment de la part de la Russie. Et donc, la lecture qu'on peut en donner, c'est celle que, effectivement, les pays de l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite, ils ont fait une sorte de reality check, une sorte de constat de réalité. Ils ont vu qu'aujourd'hui, le pouvoir, en premier lieu militaire, mais de présence, de crédibilité de la Russie est aujourd'hui à son plus haut niveau et que c'est probablement intéressant de faire effectivement un accord avec la Russie, indirectement avec l'Iran, pour arriver à stabiliser le marché après 2 années de baisse très marquée des prix du pétrole.
Claude Fischer.
Oui, moi je voudrais revenir sur l'activisme de Poutine. Je pense qu'il a une vraie stratégie, très offensive. Elle est considérée comme agressive d'ailleurs au niveau européen. Et comme la Chine, je dirais, il cherche à diversifier ses investissements. La Chine, elle investit beaucoup pétrole, gaz, mais aussi dans le nucléaire. Elle diversifie vraiment son mix énergétique dans son propre pays et elle arrive avec ses fonds souverains dans les projets, y compris européens, comme au Royaume-Uni, dans les 2 EPR par exemple, qui vont être en construction, qui viennent d'être acceptés par le gouvernement May. Et la Russie fait de même, c'est-à-dire que non seulement la Russie va essayer de développer son nucléaire chez elle pour mieux vendre aussi son gaz, son pétrole à l'étranger, mais elle investit dans le nucléaire 130 milliards d'euros programmés dans les investissements à l'étranger par la Russie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dit son dernier mot, et je pense que si nous voulons vraiment décarboner le mix énergétique mondial, il va falloir faire avec toutes ces énergies, toutes ces sources énergétiques différenciées, et et que si l'Europe n'arrive pas à avoir une vraie stratégie, on y reviendra peut-être, on va se faire complètement manger. Alors, il y aura des partenariats sans doute d'investisseurs dans nos pays différents, avec les Chinois, mais aussi avec les Russes, avec lesquels on refuse aujourd'hui de discuter, mais il faut faire attention, ils sont très offensifs. Alors, je dirais un mot là-dessus. Ils sont offensifs dans la vente du gaz par le Nord. On est en train de construire un Nord Stream 2, hein, malgré les sanctions, il faut quand même le savoir. Ce qui permettra d'ailleurs à l'Allemagne de devenir une espèce de hub pour le sud de l'Europe et la Méditerranée. Et on ne pourra pas investir du coup en Méditerranée, puisqu'on aura le gaz pas cher venu de Russie par l'intermédiaire de l'Allemagne. Et puis, par le sud, puisque le 20 décembre dernier, s'est noué l'accord avec le Turkish Stream. On devait faire le South Stream par le sud. Les problèmes de sanctions avec l'Europe, Poutine nous a tourné le dos. Il a dit, puisque c'est ça, je vais voir Erdogan. Bon, il y a eu la petite histoire de l'avion, si j'ose dire, petite entre guillemets. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est reparti. Donc la Russie et la Turquie font un partenariat. Et il faut savoir que si la Turquie est offensive, la Turquie a un rôle éminemment important, bien sûr, puisque c'est le pays par là où vont passer les gazoducs venus de Russie. Mais demain, si on arrive à coordonner et à travailler avec les pays du Moyen-Orient, de l'Azerbaïdjan, vous en parliez tout à l'heure, de la mer Caspienne, peut-être voire de l'Iran, qui ne veut pas passer par les gazoducs turcs, qui veut construire sa propre flottille en Méditerranée, mais là qui nécessitera beaucoup d'investissements. Et les Iraniens nous ont dit, j'ai fait un colloque il n'y a pas longtemps avec eux, ils nous ont dit, moi si vous voulez notre gaz, et vous dépendrez de nous parce qu'on en a beaucoup, eh bien il faudra payer pour la flotte en Méditerranée. Donc qui va aller investir en Méditerranée pour l'Iran aujourd'hui? Les grandes compagnies, puisqu'on parlait d'elles tout à l'heure, nous ont dit, nous, dans la Méditerranée, on n'est pas prêt d'investir, c'est pas rentable, d'autant qu'on a le gaz russe quand même. Au prix du marché spot, c'était 5 euros. Donc c'était vraiment, là, on sent une offensive, on sent une stratégie au nord, et on sent un peu une dilution au sud. Hein, donc, attention, et par rapport aux États-Unis, dernier mot, je pense qu'il y a une volonté américaine, bien sûr, d'ailleurs qui nous a créé beaucoup de problèmes, y compris politiques, hein, dans la zone, mais qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas encore gagné le marché du GNL ou du gaz de schiste, puisque, de toute façon, on ne sait pas les réserves à venir, mais ça peut-être Emmanuel nous en dira plus tout à l'heure.
Alors, juste pour terminer cette première partie d'émission, il y a plein de domaines dans lesquels j'aimerais qu'on approfondisse la réflexion. Rapidement, le retour de l'Iran, quelles conséquences Emmanuel H?
Le retour de l'Iran, en fait, il peut se voir à plusieurs niveaux, c'est-à-dire dans plusieurs marchés, hein, le marché du gaz et le marché du pétrole. Moi, je vais plutôt parler du marché pétrolier, et notamment, je vais parler du retour de l'Iran, notamment sur la scène de l'OPEP, parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'OPEP, oui. En fait, en termes d'acteurs, hein, on a quand même un objet en géopolitique de l'énergie, on a un objet théorique non identifié qui s'appelle l'OPEP, hein, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Pourquoi je dis objet géopolitique? Pas tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous avez deux grandes puissances qui se détestent frontalement, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et l'Iran, et qui, paradoxalement, depuis 1960, arrivent à partager, j'allais dire, quelques vues communes sur le marché. Alors, le retour sur l'Iran, il ne peut se lire qu'à travers, j'allais dire, la stratégie de l'Arabie saoudite depuis 2014 sur les marchés pétroliers. Parce que lorsque vous regardez un tout petit peu ce qui s'est passé à partir de juin 2014, les prix ont commencé à s'effondrer entre juin 2014 et puis décembre 2015, et vous avez eu une Arabie saoudite qui au départ n'a pas souhaité en fait défendre les prix du pétrole et qui dans un deuxième temps, voyant justement le retour de l'Iran, c'est-à-dire l'accord international sur le nucléaire en juillet 2015 se réaliser, a poursuivi en fait cette politique pour justement contrecarrer le retour de l'Iran sur le marché pétrolier en lui imposant un prix du pétrole excessivement faible.
Et moi je vous propose, Emmanuel H, que l'on poursuive dans la deuxième partie de l'émission sur la stratégie de l'Arabie Saoudite et comprendre un petit peu la place de l'OPEP aujourd'hui dans le monde. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Claude Fischer, Emmanuel H et Luca Baccarini dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les questions énergétiques pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro a pour titre Énergie, transition et recomposition. Nous retrouvons nos invités, Claude Fischer, directrice d'ASCPE, les entretiens européens et eurafricains, Emmanuel H, économiste à l'IFP Énergie Nouvelle, professeur et directeur de recherche à l'IRIS, et Luca Baccarini, chercheur associé à l'IRIS. Emmanuel H, nous avons terminé la première partie de l'émission sur les questions stratégiques en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, qui est membre et fondateur de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Quelle place pour l'OPEP aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut survivre, cette organisation, dans un monde finalement d'abondance pétrolière?
Elle peut survivre, l'OPEP, et elle peut même, j'allais dire, s'affirmer. C'est très intéressant votre question, parce qu'en 2013, de nombreux analystes, enfin 2013, 2014, 2015, en fait, prévoyaient la mort de l'OPEP. Il y a eu beaucoup d'articles sur OPEC is dead, par exemple. Et c'est très intéressant, en fait, de voir que, alors déjà, regardons tout simplement la situation. En novembre dernier, en fait, l'OPEP a signé un accord de réduction de la production de 1,2 million de barils jour. Ça ne s'était pas fait depuis 2008. L'OPEP a également signé avec les pays producteurs non OPEP un accord de production. Ça ne s'était pas fait depuis 2001. Donc pour une organisation qui est soi-disant en train de mourir, c'est le symbole plutôt d'une renaissance. Ce qu'il faut voir, c'est que l'OPEP est traversée à l'heure actuelle, en fait, par l'ensemble des transitions que l'on observe au niveau énergétique mondial. Parce que on n'a pas encore insisté dessus, mais on a quand même une transition du modèle économique énergétique, avec notamment les pétroles non conventionnels, qui font que le marché est beaucoup plus flexible. On a aussi quand même une transition environnementale. La transition environnementale, si on suit les objectifs du 2 degrés à l'horizon 2100, 2 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser les deux tiers des ressources pétrolières dans le sous-sol. Ça veut dire que pour les pays producteurs, ça les engage à quoi? Ça les engage, et c'est la troisième transition, ça les engage à une transition de leur modèle de développement. Et donc, à l'heure actuelle, l'ensemble des pays de l'OPEP, alors plus particulièrement notamment l'Arabie Saoudite avec sa vision 2030, ou les Émirats Arabes Unis qui ont, eux, pris un peu d'avance en fait en termes de diversification, tous ces pays sont obligés de repenser leur modèle. Donc peut-être que l'OPEP, ça ne sera plus une organisation uniquement centrée sur le pétrole, mais l'OPEP risque peut-être de devenir, à terme, une organisation internationale de l'énergie, peut-être des pays du Sud. Alors, j'aime beaucoup cette conception parce que, tout simplement, regardez, vous avez l'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie, qui est une association, on va dire, plutôt de gros consommateurs. Enfin, elle a été créée comme ça après le premier choc pétrolier. Et vous avez une OPEP qui, elle, commence à s'affirmer plutôt avec des pays producteurs, mais qui est obligée de repenser son modèle. Et regardez, très intéressant, en 2016, vous avez eu quand même deux pays qui ont réintégré l'OPEP, l'Indonésie, qui est un pays importateur net de pétrole. Certes, elle a été obligée de resuspendre sa participation à l'OPEP début 2017, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas répondre à l'accord de réduction de la production. Et vous avez également le Gabon, c'est-à-dire que vous avez véritablement une OPEP qui se transforme comme la géopolitique pétrolière, et elle est obligée de repenser son modèle de développement, et elle va être obligée d'insister peut-être un peu plus sur les ressorts de diversification. Et je finis par un dernier chiffre, hein. Entre 2015 et 2016, les recettes pétrolières des pays de l'OPEP ont diminué de près de 46%. Qui peut, à l'heure actuelle, accepter un tel changement en termes de recettes fiscales? Imaginez-vous un tout petit peu ce que cela fait en termes de développement, en termes de population.
Claude Fischer.
Moi, je dirais que l'OPEP est obligée de composer aujourd'hui. Elle a résisté pendant 2 ans, effectivement. L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, en tête, ne voulant pas réduire la production pour pouvoir gagner les parts de marché, y compris sur la Russie, sur les États-Unis. Il y avait quand même toute une stratégie de conquête qui n'a pas obligatoirement fonctionné, avec, comme vient de le dire Emmanuel, une perte de recettes énorme pour les pays producteurs. Alors, je pense à l'Arabie Saoudite, mais elle s'en fichait un peu, si j'ose dire. Par contre, d'autres pays...
Parce que le matelas était suffisamment important, c'est ça,
oui,
quoi que elle
parce
soit
qu'elle
en train
avait une stratégie de conquête des parts de marché, en fait. Ça a dominé, me semble-t-il, en tout cas, sa politique, alors que d'autres pays en ont beaucoup souffert. Évidemment, la baisse des prix des matières premières ont frappé de plein fouet. Alors, je pense aux pays d'Afrique, moi je m'occupe beaucoup d'Afrique, que ce soit le Nigeria ou les pays producteurs d'Afrique, ça a été terrible, l'Algérie, et il ne faut pas croire que ça a favorisé les pays non producteurs de pétrole. C'est plus complexe que ça, évidemment. Il y a eu des conséquences contradictoires à la baisse des prix du pétrole. Moi, ce que je voudrais dire là, c'est que le pétrole a quand même encore des beaux jours devant elle. Si je considère qu'il y a un enjeu démographique énorme dans le monde, en Afrique par exemple, avec un niveau de développement qui s'élève et qui, j'espère, l'Afrique va émerger aussi sur le marché mondial. Elle n'y est pas encore, elle est à 2-3% de l'économie mondiale, mais elle se bat, elle commence à nouer des partenariats avec toutes les régions du monde, y compris la Chine d'ailleurs, qui est très présente en Afrique, et on aura besoin de toutes les sources énergétiques. Alors peut-être faut-il, dans le cadre de la COP22, pour respecter nos objectifs, inventer des ressources propres avec le stockage et le captage du CO2, qu'on a abandonné d'ailleurs dans les recherches. Il y avait 12 projets pilotes en Europe, on les a arrêtés. Et puis peut-être aussi favoriser le développement d'une industrie nucléaire durable, évidemment, qui va nécessiter d'investir beaucoup dans les hommes, dans la recherche, pour avoir la quatrième génération nucléaire qui nous permettra de satisfaire. Encore un tout petit mot sur l'Afrique. Mmh. Il y a le réchauffement climatique qui les touche d'abord. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas électrifiée. Elle ne peut donc pas transformer ses matières premières, dont elle est très riche. Et puis, elle ne peut pas se refroidir, si j'ose dire. Et quand on vit à 50 degrés à l'ombre, excusez-moi, il y a des migrations massives en perspective qu'il va bien falloir juguler ou en tout cas maîtriser avec eux.
L'Europe, quelle sécurité énergétique pour l'Europe? Quel défi? Est-ce qu'elle a, l'Europe, une stratégie? Luca Baccarini, je me tourne vers vous. Et finalement, on évoquait dans la première partie de l'émission la Russie. Claude Fischer parlait d'une politique de la Russie très très offensive en matière énergétique. Est-ce que finalement, l'Union européenne est plus dépendante de la Russie pour son approvisionnement en gaz que la Russie n'est dépendante de l'Union européenne pour ses exportations, Luca Baccarini?
On est effectivement surtout sur un sujet gazier en premier lieu, parce que vous savez que, bon, évidemment, on mélange toujours un peu la problématique gaz-pétrole. L'avantage du pétrole, c'est la facilité du transport. Donc effectivement, le pétrole est un marché mondial. Donc si un jour il existe un problème avec un producteur ou avec un point de passage, on peut toujours essayer de trouver une solution facilement avec d'autres routes, d'autres producteurs. La problématique du gaz est essentiellement liée au transport terrestre du gaz. C'est-à-dire que effectivement, on a eu un certain nombre d'épisodes ces dernières années, notamment liés à la confrontation entre Russie et Ukraine, qui ont montré qu'il existait une dépendance, une problématique physique, lié effectivement aux approvisionnements gaziers de l'Europe et aux approvisionnements donc via des gazoducs terrestres, donc fixes. Donc par rapport à cette problématique de sécurité d'approvisionnement que l'Europe a senti d'une façon très forte, notamment pour les pays de l'Europe de l'Est, anciens soviétiques qui sont dans certains cas encore aujourd'hui à 100% dépendants du gaz russe, c'est vrai que l'Europe s'est beaucoup inquiétée, a essayé de faire beaucoup d'actions pour maîtriser cette problématique de sécurité des approvisionnements. La plupart des opérations qui ont été réalisées visent surtout à augmenter la liquidité du marché européen. C'est-à-dire, il y a une série d'infrastructures, de gazoducs qui ont été construits pour faire en sorte que les pays européens entre eux soient plus connectés. Donc qu'il y ait plus d'opérateurs avec une vision de marché que, effectivement, plus de liquidités, plus d'opérateurs égale plus de sécurité. Ce qui est, à mon avis, une vision un peu partielle, parce que, après tout, ce n'est pas parce que vous faites circuler plus facilement ce gaz que vous êtes moins dépendant de celui qui sont les importateurs de cette énergie. Et de ce point de vue, il n'y a pas eu de vraie révolution. C'est-à-dire que l'Europe continue à être dépendante, disons, pour simplifier, pour un tiers de sa consommation du gaz russe. Et après, il y a de la Norvège, après il y a de l'Algérie, du Qatar, et il y a une production domestique européenne qui progressivement baisse. Et d'un point de vue de sécurité d'approvisionnement, elle a surtout un filet de sécurité qui est représenté par le fait que le gaz, en plus de pouvoir être transporté par gazoduc terrestre, peut l'être aussi par navire, sous la forme du GNL, du gaz naturel liquéfié. Et effectivement, aujourd'hui en Europe, il existe, presque dans tous les pays, il existe une infrastructure existante de terminaux d'importation. Et donc l'analyse qui peut être faite au niveau de la sécurité européenne, désolé d'être un peu long dans l'explication, mais c'est de dire, mais si un jour il y a un problème avec la Russie ou avec un autre producteur, on a quand même la possibilité d'utiliser ces terminaux d'importation des GNL, des gaz naturels liquéfiés, et donc de pallier à ces défauts d'approvisionnement physique.
Alors justement, on évoquait dans la première partie de l'émission l'article récent de Samuel Furfari dans le quotidien Les Échos qui parlait des capacités aujourd'hui des États-Unis à exporter leur gaz liquide avec les Américains qui tirent profit de l'élargissement du canal de Panama. Alors la question est-ce que les Américains peuvent concurrencer ou le gaz américain peut concurrencer le gaz russe en Europe. Claude Fischer, je sais que vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Luca Baccarini. Est-ce que finalement les découvertes de gaz en Méditerranée orientale sont aussi une bonne nouvelle pour l'Union européenne ? Claude Fischer.
Alors, vous me permettrez de revenir brièvement sur dépendance, interdépendance.
Mmh. Vis-à-vis de la Russie?
Oui, je pense que ce sont des interdépendances, mais elles sont malsaines aujourd'hui. Les Russes ont vécu comme une agression notre politique de sécurité énergétique visant à réduire ce qu'on a appelé la dépendance russe. Et du coup, ils ont réagi aussi parce qu'ils ont besoin de sécurité
c'est
énergétique.
C'est la loi du marché, Claude Fischer.
Pas seulement, non, c'est des stratégies. L'énergie n'est pas une marchandise comme les autres, hein, surtout en Russie. Hein. Gazprom est encore un actionnaire majoritaire de l'État, etc. Et les grands gazoducs ou les grandes infrastructures se décident d'État à État. Hein. C'est... Alors, aujourd'hui, les entreprises prennent aussi le relais. Le Nord Stream 2, c'est un consortium de grandes entreprises, mais évidemment avec l'accord des États. Il ne faut pas tricher, pas d'hypocrisie. On prend des sanctions contre la Russie, mais on accepte finalement la construction de grands consortiums pour faire venir le gaz russe, alors qui va s'arrêter juste à l'Allemagne, puis l'Allemagne prendra le relais. C'est ça la vérité des choses. Donc, il faut repenser nos interdépendances. Et il faut pouvoir nouer des relations commerciales en coopération avec, y compris la Russie, bien sûr, et la Turquie, même dans une situation politique extrêmement compliquée aujourd'hui avec Erdogan, on n'en parle pas beaucoup, mais les relations se sont arrêtées tout net hein, après le coup d'État en Turquie et les orientations de l'été dernier. Donc je pense que là, l'Europe aurait une place à jouer forte qu'elle n'a pas pour essayer de construire une grande zone, un grand marché en associant les États comme la Russie, comme la Turquie, et y compris le Royaume-Uni qui est en train de sortir d'ailleurs de l'Europe. On a besoin du Royaume-Uni de toute façon dans la politique. D'ailleurs, le Royaume-Uni, il y a, au niveau sécuritaire, au niveau énergétique, c'est deux grands domaines où on a besoin de construire une zone beaucoup plus large que l'Union à 27. On parle de troisième cercle aujourd'hui où on pourrait associer des États et pourquoi pas jusque l'Afrique du Nord et la Libye. Ça paraît utopique, mais en même temps, c'est sans doute des orientations qui favoriseraient la fin des tensions entre nous. Et puis, pourquoi pas de nouvelles alliances qui permettraient à tous d'être en sécurité énergétique. Il n'y a pas que l'Europe. Il ne faut pas que penser Europe. Et l'Europe, quand elle pense à sécurité énergétique, je trouve qu'elle pense mal. Elle pense réduction de consommation et elle pense interconnexion intérieure, non pas pour le gaz, mais sur l'électricité. Or, sur l'électricité, on est à 10% à peine d'interconnexion intérieure. Ça coûte très cher d'interconnecter les réseaux. Et en plus, c'est pour donner les priorités aux ENR, comme on dit, c'est-à-dire les énergies renouvelables. C'est-à-dire que ça plombe les choix énergétiques des États dans l'espace communautaire et les États ont tendance à renationaliser leur politique énergétique parce qu'ils ne veulent pas effectivement être imposés dans leur choix énergétique. Donc, en fait, il faudrait viser sans doute un pacte de solidarité énergétique au sein de l'Europe, en respectant le choix des États, mais en visant des objectifs plus larges de sécurité énergétique et de production électrique, en fonction des besoins qu'on ne connaît même pas sur le gaz. On parlait du gaz. Les Européens veulent baisser leur consommation de gaz. On n'a aucune prospective, sur, aucune étude sur nos besoins de consommation en gaz dans les années qui viennent.
Aucune étude publique, mais probablement...
Écoutez, s'il y a des études, tant mieux, c'est la bonne nouvelle, mais on les a pas. La Commission ne travaille pas sur des études concrètes. Mais en même temps, nous avons une politique qui cherche à articuler l'intérieur, interconnexion, mieux de marché intérieur, en sachant qu'on est dans un espace très fractionné. Et puis, une politique extérieure qui est très défensive. L'Europe n'est pas une grande puissance, on le sait aujourd'hui, malheureusement, politique, et elle n'a pas les moyens d'un débat avec les Russes, qui, eux, sont très offensifs, et la Turquie, qui, en plus, tous les deux, non seulement font alliance, mais ont tendance à se tourner vers l'Est aujourd'hui. Attention, il y a aussi un gros marché potentiel pour eux à l'Est, y compris en Chine, parce que la Chine, c'est grand, hein, faudra aussi électrifier l'Ouest de la Chine. Et enfin, sur les États-Unis, effectivement, les États-Unis aspirent à conquérir aussi les marchés du gaz en Europe et partout. Mais pour l'instant, ce ne sont encore que des prévisions. Il n'y a rien de concret, un peu comme en Méditerranée. On a du gaz, mais les infrastructures ne sont pas créées. Dernière chose sur les gazoducs, vous m'excuserez d'être longue. Les gazoducs, encore faut-il mettre du gaz dedans, hein. Il ne suffit pas d'avoir les infrastructures. Si je prends les infrastructures au sud de la Turquie, comme le TANAP ou le TAP, elles sont de très faible capacité. De toute façon, ça ne suffira pas pour alimenter l'Europe. Donc, il faut en construire d'autres. Et là, nous avons le problème des prix sur le marché. Les investissements ne sont pas rentables à l'heure actuelle.
En tout cas, appel à une stratégie européenne en matière énergétique. Je l'ai bien compris. Deux questions pour terminer cette émission. La première, c'est la mer Caspienne. On connaît pas bien la dynamique Kazakhstan, Turkménistan, Azerbaïdjan. Quelques mots peut-être sur leur stratégie avec vous, Luca Baccarini. Et puis on terminera avec les États-Unis. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va-t-elle modifier quelque chose dans la stratégie américaine en matière énergétique, Luca Baccarini?
La mer Caspienne, il s'agit aujourd'hui surtout d'une thématique gazière. Et on a deux pays très significatifs, sont d'un côté le Turkménistan, donc à l'est de la mer Caspienne. Le Turkménistan s'est très clairement tourné vers la Chine ces dernières années, donc des grands champs et des grandes infrastructures de transport financées par des capitaux chinois avec la participation des entreprises chinoises. Et plus à l'ouest, on a l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a notamment un grand champ gazier dans l'offshore de la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan a fait le pari d'essayer de construire effectivement une infrastructure gazière dans ce qui est appelé le corridor gazier du Sud pour amener ce gaz vers les marchés européens. C'est autant un projet économique que géopolitique, un sarriement plus à l'Europe. Et on est aujourd'hui donc en train de construire effectivement cette infrastructure gazière qui traverse donc la Turquie et qui après arrivera en Grèce et en Albanie jusqu'au sud de l'Italie. Et donc, c'est effectivement un développement qui est en cours, mais qu'il faut relativiser par rapport aux chiffres globaux des besoins européens. Justement, c'est une petite diversification gazière par rapport à l'emprise, par rapport à l'importance absolue des exportations russes.
Et un processus assez lent. Alors, très rapidement, sur les États-Unis, Trump à la Maison-Blanche, Luca Baccarini et Emmanuel Hage pour conclure cette émission.
C'est clair que c'est très difficile d'anticiper les comportements de Trump. Pour l'instant, ce sont des déclarations et les premières actions sont assez fracassantes. On vient d'assister à les premières opérations directes de Trump qui vient de faire des décrets pour essayer de débloquer deux oléoducs qui sont en projet mais qui sont pour l'instant bloqués par différents obstacles légaux. C'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à la problématique domestique de Trump, on voit clairement une volonté de redynamiser les États-Unis, de limiter les entraves environnementales, etc. Donc on peut imaginez que c'est une contribution à une augmentation de la production américaine. Mais ceci, ce soit le domaine domestique. Sur le domaine international, je laisse conclure Emmanuel.
Emmanuel et Claude Fischer qui voudra dire quelques mots. Alors, mais tout cela en trois secondes.
Oui, en trois secondes, ouais, je mettrai en premier lieu les nominations. C'est pas un très bon signe d'un point de vue environnemental et puis même en termes de géopolitique pétrolière. J'ai envie de vous dire les premiers décrets, effectivement, la reprise de l'oléoduc Keystone XL et puis du Dakota. Et puis la volonté, par exemple, de revitaliser le charbon aux États-Unis, parce que Trump parle beaucoup en fait du business model. Le charbon aux États-Unis, c'est une baisse de 20% entre 2015 et 2016 en termes de production. C'est une production très faible. C'est la plus faible depuis 1978. Et Trump, en matière énergétique, c'est un peu comme Trump en économie. Faudra voir le long terme. À court terme, ce sont beaucoup de messages. À long terme, il y a quand même des tendances très fortes dans le monde de l'énergie. Il sera très difficile quand même de les contrecarrer.
Je vous réinviterai pour parler des États-Unis. Claude Fischer, en une seconde.
Trump, il nous appelle à casser l'Union européenne. Il faut riposter, il faut la construire. Il faut une union de l'énergie plus forte qui nous permettrait de parler de puissance à puissance avec les États-Unis. Ce sera ma conclusion.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Claude Fischer, directrice d'ASCPE, les entretiens européens et eurafricains, Emmanuel H, économiste à l'IFP Énergie Nouvelle, professeur et directeur de recherche à l'IRIS et directeur donc du dernier numéro de la revue internationale et stratégique consacrée à l'énergie, énergie, transition et recomposition, et Luca Baccarini, chercheur associé à l'IRIS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Marjorie Bertin, Nathalie Laporte. À samedi prochain. Autour de la